Acte chapitre 2, verset 1er. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er, nous lisons ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Je vais continuer sur la plénitude de l'Esprit, et ainsi de suite, on avancera. Si vous vous en souvenez, il y a de ça plusieurs semaines en arrière, nous en avons parlé en évoquant l'un des symboles du Saint-Esprit, qui se trouve être l'eau vive. Et ce matin, je voudrais en parler avec cet autre symbole du Saint-Esprit qui est le vent, le souffle. Plénitude de l'Esprit. Ce mot, on le comprend. Être rempli. Être débordant. Être revêtu. Alléluia. Ces dernières semaines, il y a eu cette action de Dieu selon sa promesse concernant cette plénitude de l'Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit. Et ça va se manifester, comme dit l'Écriture, et nous l'avons lu, par le parler en langue. C'est miraculeux, c'est glorieux. Ça va au-delà de ce que l'on peut imaginer, mais Dieu est puissant et vivant. Et nous avons, dans cette œuvre de Groyer, plusieurs personnes qui ont vécu cela, et il n'y a pas longtemps de cela, il y a notre sœur Mélanie. Et il y a Marlène aussi. Et il y a Razika, bien sûr, tout le monde le sait. Alléluia. Ça a fait du bruit. C'est marqué, hein ? Il y a eu du bruit. C'est un bon bruit, ça. Après, ça se canalise, mais on continue à grandir, à progresser. Et puis, ça l'a amené à être baptisé d'eau, puisque Pierre, étant chez Corneille, annonçant l'Évangile, Actes des Apôtres, chapitre 10, il va être confronté à Corneille, sa famille, les amis intimes qui étaient là dans sa maison, qui ont entendu la prédication de la croix, se sont convertis pendant la prédication de l'Évangile, et ils ont été immédiatement baptisés dans le Saint-Esprit. Pierre les a baptisés d'eau. Parce qu'on ne peut être baptisé dans le Saint-Esprit qu'après avoir cru et être passé par la nouvelle naissance, être devenus des enfants de Dieu. Donc la plénitude de l'Esprit, c'est important, être rempli. Alléluia. Et le souffle, puisque c'est là-dessus que je veux m'appuyer, le souffle est indispensable, justement, à la plénitude. Et en fonction des textes dans la parole de Dieu et des contextes aussi, parce que c'est important, le souffle désigne l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, ou bien dans dans un sens plus large, le fait d'avoir la vie. Et cette qualité de vie, j'insiste là-dessus, elle est du ressort de la nouvelle naissance que l'on vit en Jésus-Christ. Pas que l'on vit en acceptant l'idée d'une religion. Ce n'est pas la route, c'est pas ce que m'enseigne l'Évangile. Mais par le biais de la nouvelle naissance, une nouvelle vie intérieure qui va se manifester extérieurement par des fruits dignes de la repentance, etc. Donc, il y a là une qualité de vie qui ressort de la nouvelle naissance, qui insuffle, je dirais, un souffle de vie d'une autre dimension et d'une autre nature. Nous avons lu que tout à coup, il est venu, non pas de la terre, hein, du ciel. Un souffle qui vient du ciel. La puissance de l'esprit qui descend. Alors il ne faut pas confondre, bien sûr, le souffle de vie physique et le souffle de vie physique et psychique avec le souffle de vie spirituelle. Ça n'a rien à voir. Je le précise. Le mot « esprit » dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, est traduit du grec, et le mot en grec, c'est « pneuma ». Et ce mot grec, « pneuma », veut tout simplement, littéralement, dire « souffle ». Et c'est pourquoi l'étude du Saint-Esprit concernant l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, est appelé dans la théologie la pneumatologie, l'étude du Saint-Esprit, pneuma, le souffle. Et je parlais donc de cette qualité de vie qui ressort de la nouvelle naissance et qui insuffle un souffle de vie d'une autre dimension, d'une autre nature. La nouvelle naissance, c'est Jésus, bien avant ce jour de l'effusion, du baptême dans le Saint-Esprit, de la plénitude de l'Esprit, dans l'être entier des 120 environ, nous dit le contexte qui était dans la chambre haute, là, à Jérusalem, attendant cette promesse qui avait été faite, et ils vont recevoir cette promesse, au bout de 10 jours, de prière, de louange, d'adoration, de communion, d'unité, d'amour fraternel, alléluia, donc d'obéissance à Dieu. Et bien avant cela, eh bien, c'est cet homme, ce religieux de l'époque qui se prénommait Nicodème, qui va avoir un contact avec Jésus, et un contact qui va marquer sa vie. D'ailleurs, quand on a un contact avec Jésus, et ce matin, je voudrais vous dire qu'au-delà de toutes les personnes qui sont dans ce lieu, et vous en faites partie, au-delà de ma personne de pasteur qui annonce la parole de Dieu, je voudrais tout simplement vous dire que Jésus est là. Non, parce que s'il n'était pas là, moi je serais ailleurs. Je serais à la braderie de Groyer. Où je serais en train de pécher, je ne sais pas, enfin bref, dans tous les sens du terme. Mais Jésus est là. Et quand Nicodème vient vers Jésus, il y a un contact qui va marquer, j'insiste, le cœur de Nicodème, parce que il se pose certaines questions, il va avoir les réponses, il se pose la question de savoir comment un homme peut-il entrer dans le royaume de Dieu? Comment cela est-il possible? Jésus va lui dire, il faut que cet homme ou cette femme naisse de nouveau. Jean chapitre 3. Alors il comprend pas très bien, c'est très étonnant de la part d'un religieux, d'un enseignant de la loi, chef des Juifs. Mais Jésus va insister et de lui dire, Jean chapitre 3, verset 5, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer, il ne peut entrer, et même juste avant, il est dit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah. Et Jésus leur ajoutait, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, donc d'en haut, est esprit. Et Jésus leur ajoutait, il insiste, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, spirituellement. Et là, au verset 8, il précise, et il dit, le vent, il prend cette image, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau, de l'esprit, conjugué avec la parole, la prédication de l'évangile, avec le message de l'évangile que vous entendez ici dans ce lieu et également sur le site. Jésus dit, ou du moins il compare la nouvelle naissance à cette action semblable à un vent, à un souffle, pneuma, l'esprit qui agit. Et en même temps qu'il y a là une nouvelle naissance, il y a là également eh bien, la manifestation du Saint-Esprit qui s'installe, qui se place là dans le cœur qui s'ouvre par le moyen de la foi en Jésus-Christ qui lui seul peut pardonner les péchés par son sang précieux, laver tout cœur de tout péché, de toute iniquité. Et à partir de ce moment-là, Dieu veut nous amener plus loin, selon sa promesse, c'est d'être totalement rempli. Il faut que ce vent souffle un peu plus fort sur notre pays. Il faut que ce vent souffle un peu plus fort dans nos églises, dites de Pentecôte. Pourquoi ? La Pentecôte, c'est une fête juive, mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu, on l'a lu tout à l'heure, l'effusion du Saint-Esprit. Donc ce terme, ce générique, on le garde parce que nous croyons dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu. Alors comme nous en avons besoin, il y a certains vents, certains souffles, en effet, qui sont souhaitables. Seulement, Dieu sait ce qui sera bon pour nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance. Il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre cela. Ça s'adresse même à des enfants. De lui faire confiance. Dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est Salomon, chapitre 11, verset 5, il va dire ceci, « Nous ne savons pas quel sera le chemin du vent. » Le chemin du vent. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais il y a quelque chose qui va se manifester. Le vent, je ne le vois pas, mais je le sens. La personne du Saint-Esprit, je ne la vois pas, donc Dieu, le Seigneur. Mais si je me tourne vers Jésus, si je lui ouvre mon cœur, si je reste en communion avec lui, puisque je lui ai déjà ouvert mon cœur pour lui demander pardon, je vais sentir, pas une fois, pas deux fois, pas de temps en temps, pas seulement le dimanche, non, mais tous les jours de ma vie, je vais sentir ce souffle, ce vent. Alléluia. Il va avoir un impact, des effets salvateurs, importants pour ma marche spirituelle. Toute la parole de Dieu le souligne, l'apôtre Paul y revient dans ses lettres, particulièrement aux Corinthiens entre autres, mais il insiste là-dessus, montrant que la vie de l'Esprit en Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu, dans la vie et le cœur de quiconque croit en Jésus, ce n'est pas une option, ce n'est pas à mettre de côté, ce n'est pas à regarder comme étant quelque chose qui fait partie du passé, c'est inévitable, incontournable, c'est un besoin que nous avons chacun d'entre nous. La nouvelle naissance, donc, est comparée avec le vent et le souffle, puisque l'Esprit de Dieu, de Christ, comme le vent, ne peut pas être limité à un endroit ou à une direction. Eh bien, ce vent, ce souffle, de la manière la plus inattendue, la plus fantastique et la plus mystérieuse, va se manifester. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Je l'ai dit tout à l'heure, je le précise, le vent. On le reconnaît à son activité. Quand le vent souffle, les arbres bougent. S'il souffle un peu fort, quand c'est le vent d'automne, on connaît ici, hein, ça c'est tempétueux, si vous mettez une casquette, elle s'envole. Si vous avez des cheveux un peu longs, ils partent dans tous les sens. Pas la peine d'aller faire un brushing, ça sert à rien. C'est vrai pour le vent d'automne ici, c'est vrai pour le Mistral du côté de chez moi, là-bas, dans le sud. On voit son activité. On voit son activité. On en entend le bruit quand le vent d'automne souffle ici très fort, chez moi, je suis en plein vent. Ça passe par la cheminée et j'entends « ouh, ouh, oh là là ». Et encore, elle est fermée, hein. Ça passe quand même. Oui, j'ai entendu, il faut la fermer. Mais elle est fermée. J'entends bien. Hein. Mais ça passe quand même. Tellement fort. Tellement fort. J'ai discuté avec une épouse d'un de mes collègues et elle nous disait que quand elle entend ce bruit, ça lui fait peur. Le bruit comme ça. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez, hein. Il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur de je ne sais pas quoi. C'est le bruit du vent, ça. Puis il y en a qui ont peur de rien. Pensez-vous. Donc le vent, vous le reconnaissez à son activité, à son bruit, idem pour le Saint-Esprit. Sur celui qui va être touché par le Seigneur Jésus qui va naître de nouveau. Ce qui était dans la chambre haute était né de nouveau. Vous avez cela, cette description dans le chapitre 1er du livre des Actes. Ils sont nés de nouveau. D'ailleurs, comment peut-on rester 10 jours dans la louange, l'adoration, la prière, à chanter des cantiques si on n'est pas né de nouveau? Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, s'il passe une heure dans une église, c'est pas évident pour lui déjà. Et même d'y rentrer, c'est pas facile. Mais là, passer 10 jours à attendre une promesse, dans la prière, la louange, l'adoration, dans le chant des cantiques, dans la communion fraternelle. Donc, c'est qu'ils étaient nés de nouveau. Il y a d'abord cette étape. Et ce vent peut se manifester. Encore ce matin, ce souffle. Cette plénitude de l'Esprit, pour ceux qui connaissent Jésus, pour être remplis, de nouveau remplis, alléluia, vivre la vie de l'Esprit, pour ceux qui veulent s'approcher de Jésus, pour être revêtus de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu, mais être ensuite également dans la plénitude. Le vent était souvent un symbole du Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament. Et nous l'avons lu, là, dans la chambre haute. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, bien sûr, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit laisse sous-entendre, mes bien-aimés, une manifestation de puissance dans le service. Car il y a un avant et il y a un après. Et juste avant qu'il y ait cette manifestation, eh bien, Luc, dans ce livre des Actes des Apôtres, va souligner ceci, une promesse du Seigneur, mais vous recevrez une puissance, alléluia, ou littéralement c'est de la puissance, alléluia, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne de la Trinité, c'est Dieu, mais il manifeste de la puissance. Il donne de la puissance et vous serez alors des témoins de l'Évangile de Jésus-Christ non pas de Jéhovah, hein, mais de Jésus-Christ auprès de tous les hommes. Alléluia. De l'amour de Dieu, de la vérité. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il communique de la puissance. Autant que le vent peut être puissant, un souffle puissant, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Est-ce que c'est l'impétuosité ? Est-ce que c'est l'impétuosité ? Vous voulez que je vous montre ? L'impétuosité, comme celui d'un vent. On l'a dit tout à l'heure, comme le vent d'automne, quand il souffle fort, le mistral, quand il souffle une tempête, c'est fort. Quelque chose de fort. Mais le Saint-Esprit n'est pas non plus un vent. Pardonnez. J'insiste, c'est une personne dont l'action est comparable à celle d'un vent. Il est indispensable de considérer que dans tous les cas, l'action du souffle divin venant de son esprit est vital à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie de l'Église et de notre vie personnelle avec Jésus. Et en transposant justement ces notions dans le domaine spirituel, eh bien, nous pouvons affirmer qu'il y a un grand et urgent besoin de recevoir du Seigneur par son esprit un renouveau de souffle spirituel. Je prie Dieu tous les jours pour qu'il souffle sur cette Église et en même temps sur ce pauvre département du Tarn. Et puis je rajoute, on est d'accord, sur ce pauvre pays de France. Qu'il y ait un souffle. Le souffle, le vent de l'esprit ne détruit rien. Il ne blesse pas, il ne tue pas. C'est un vent contrôlé. C'est une tempête de bénédiction. Ça va pas trop ensemble, mais car quand nous on pense à la tempête, on pense à une destruction. Mais là, je voudrais le dire et insister, c'est une tempête de bénédiction. Et quand on transpose ces notions, donc, on a envie, sur le plan spirituel, dire « Oui, Seigneur, envoie, envoie ton souffle. Souffle sur nous. » Il y a un très beau cantique qui dit « Souffle sur nous. » Des vieux chants qui sont formidables. « Souffle sur nous. Souffle de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle sur moi. Alléluia. Souffle dans mon cœur. » Un renouveau de souffle spirituel. Et dans le même chapitre 11 du livre de l'Ecclésiaste, cette fois-ci au verset 4, il est écrit que celui qui observe le vent, eh bien, ne sèmera point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il y a des situations qui font que on se sent parfois découragé. Je n'ai pas à chercher à observer le vent. Alors là, bien sûr, c'est sur le plan littéral, dans le sens qu'il peut faire des dégâts. Ici, c'est l'image de toute opposition, de toute contestation, de toute réaction négative venant de ce monde par rapport au péché qui prend de l'ampleur, par rapport à la persécution qui prend de l'ampleur. Et on aurait envie de s'arrêter parce qu'on observe ce vent de ce monde, ce vent d'iniquité, ce vent de folie, ce vent du péché, ce vent de la désobéissance à Dieu et à la parole de Dieu. Et on aurait envie de dire, mais après tout, si je regarde, je regarde cela, je le vois, on le voit tous les jours. On a envie de s'arrêter, on a envie de dire c'est pas la peine. Non, je voudrais vous amener, mes frères et mes sœurs, mes amis, à considérer plutôt le vent de l'esprit, à considérer le souffle de l'esprit, vous en avez besoin. Il y a des jeunes qui en ont besoin, ils sont éteints. certains jeunes. J'en vois certains venir dans cette église, ne vous sentez pas visé, à part que ça soit votre problème. Mais je parle d'une manière générale. J'en vois venir dans cette église, comme dans d'autres églises, ils sont totalement éteints. Ils sont là à leur place, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Mais je bénis Dieu parce que la Bible nous dit, je bénis Jésus, parce que la Bible me dit, la parole de Dieu dit, que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. Je bénis Dieu parce que la Bible me dit, le Seigneur Jésus dit, qu'il ne brise pas le roseau cassé. Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir d'être relevé, renouvelé, de revenir là, à la place qui doit être la mienne, d'être debout sur mes deux jambes, spirituellement, pour servir le Seigneur. Amen. Jeune homme, jeune fille, réveille-toi, il est l'heure de te réveiller, il est l'heure de te laisser remettre debout. Homme, femme d'un certain âge, laissez le Saint-Esprit vous renouveler et remettez-vous debout pour le servir. Afin de semer et de récolter. Afin de semer et de moissonner. Et vous avez remarqué avec moi que le baptême de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, le souffle de l'Esprit va se manifester le jour de la fête de la Pentecôte. Et la Pentecôte juive, c'est une fête qui célèbre la moisson. Rien n'est fait au hasard avec Dieu. Tout a une portée, tout a une réalité. Le Seigneur veut que là, dans ce département, là, dans ce secteur grouillétois, là, jeune homme, jeune fille, dans ton cœur et dans le cœur de ceux que tu côtoies, là, homme, femme, dans votre famille, il y ait une moisson. Et pour qu'il y ait une moisson, il faut non pas regarder le vent contraire de ce monde, mais il faut regarder le vent de l'Esprit qui souffle par sa parole, par les prophéties de sa parole qui se réalisent dans les moindres détails. J'aime ce passage qui concerne Israël, mais je le prends aussi pour moi, on le prend pour nous, et on a raison, parce que Dieu nous aime, il ne fait d'exception de personne, mais il dit, Dieu a un avenir et de l'espérance. Il a des projets de paix pour nous, et non de malheur. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous conduire dans cette direction, souffler dans les voiles de notre vie, souffler dans les voiles de notre cœur, pour nous pousser dans la direction voulue de Dieu, et que je puisse être dans la bénédiction du Seigneur, afin d'apporter aux autres. L'action du Saint-Esprit est comparable, entre autres images possibles, à celle donc de ce souffle, effectivement. Il faut appeler, je le crois, vous le comprenez, j'insiste là-dessus, il faut appeler de nos vœux. Ça, c'est le vent souhaitable, c'est le vent qu'on désire, c'est le vent du ciel, c'est le vent de l'Esprit, c'est le pneuma, l'action du Saint-Esprit, la plénitude, appeler de nos vœux et de nos prières ce souffle. Le Seigneur ne nous demande pas de nous lamenter. On pourrait certainement évoquer toutes sortes de raisons valables, comme Jérémie le prophète a pu l'évoquer à un moment donné, quand il a vu la situation de Jérusalem et du peuple d'Israël qui était amené en déportation. Et c'est la raison pour laquelle il a écrit ce livre des Lamentations de Jérémie. Et quand nous le lisons, nous nous rendons compte que cet homme de Dieu va dire, Seigneur, quand je regarde tout cet aspect négatif, quand je regarde le vent qui vient de détruire mon peuple, qui vient de détruire la ville de Jérusalem, qui vient de faire du mal ici et là, quand je regarde ce vent-là, je suis dans la détresse, je suis dans la peine. C'est pour moi de l'absinthe et du poison. Je n'en peux plus, je suis au plus bas. Je ne sais plus comment faire, Seigneur. Mais comme c'est un homme de Dieu, un homme qui connaît les promesses de Dieu, un homme qui connaît l'Éternel et l'amour de Dieu et le secours de Dieu qui ne manque jamais dans les temps de la détresse, alors il dit, Seigneur, Seigneur, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent pour nous maintenant, ce matin, chaque jour. C'est que tes compassions ne sont pas à leur terme. Et il va rajouter, au milieu de ce contexte qu'il remarque difficile, il va rajouter, Oh, que ta fidélité est grande. J'aimerais tellement, mes frères et sœurs, sur le plan de votre vie spirituelle individuelle, que vous puissiez dire à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi de ce souffle. Souffle sur ma vie. Souffle sur mon couple. Souffle sur ma maison. Souffle là où je suis. Souffle. Et remplis-moi. Afin que je déborde. Et quand on déborde, les autres en profitent. Ce n'est pas un vase clos, c'est un vase ouvert. Et que Dieu fasse que nous soyons des vases ouverts. Et le Seigneur, quand nous nous abandonnons entre ses mains, il va faire de nous des vases qui sont à sa gloire, des vases d'honneur, des vases qui ont un usage à la gloire de Dieu, une bénédiction pour les autres, un vase. Le Seigneur fait en sorte qu'il puisse déborder. Est-ce que je déborde ou est-ce que je suis à sec? Est-ce que je déborde de cette plénitude de l'esprit, l'eau vive, le vent, le souffle? Vous avez remarqué, on va arriver petit à petit dans la période de l'été et dans une région comme celle-ci, il fait chaud l'été parfois, très chaud. Et pour faire face à la chaleur, qu'est-ce que font les gens? Ne me parlez pas de piscine. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, merci. Ils mettent la clim. Ça va souffler un air froid qui va leur permettre d'être renouvelés. Et si on n'a pas la clim, on propose aux personnes âgées d'aller dans un centre commercial au moins une heure lors des grosses chaleurs pour que le corps se renouvelle. On en a besoin physiquement. Et l'hiver, quand il fait froid, il y a des clims réversibles et elles vont souffler de l'air chaud pour ne pas tomber en hypothermie. Que Dieu fasse qu'avec le souffle tempéré et adapté du Saint-Esprit, nous puissions être toujours à la bonne température. Amen. Ni trop froid, pas en hypothermie spirituelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Certainement pas boue, trop bouillant, parce que si on nous touche, on va se brûler. À la bonne température. Oui, bouillant, oui, mais de la bonne manière. Et en même temps, de pouvoir aussi apporter une fraîcheur. La chaleur, la fraîcheur, par le souffle de Dieu, la plénitude de l'esprit, ça c'est souhaitable. Et puis il y a certains vents qui ne sont pas souhaitables. Je les cite très rapidement avec un texte approprié. Il y a des vents qui ne sont pas souhaitables, je ne m'étendrai pas avec des textes appropriés. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons pas, le contexte c'est les ministères dons, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres. L'Église a besoin des ministères dons de Christ. Être un ancien, c'est une charge, c'est pas un ministère. Mais l'Église a besoin des ministères dons. C'est la volonté de Dieu. Une église qui n'a plus de ministère don, pour s'occuper de l'église, c'est une église qui va mal. C'est une bénédiction de Dieu, j'ouvre une parenthèse, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je prêche d'une manière générale. C'est une bénédiction de Dieu, et je le vois comme ça, et j'espère que vous le voyez comme moi, c'est une bénédiction de Dieu quand nos églises peuvent avoir un pasteur à plein temps. Alors peut-être certains diront, oh, pourrait ça passer. Non, non, c'est faux ça. Je vous donne un exemple. Dernièrement, et en même temps, ça vous donne des nouvelles du travail sur le plan national par le biais de la mission intérieure sud et nord, sur le territoire français. Lors de notre congrès national annuel à Montluçon, nous avons eu des nouvelles précises, détaillées, de la part du jeune pasteur sous la responsabilité de l'équipe pastorale de Vichy et de Ghana, dans l'Allier, de l'œuvre de Moulin, qui depuis à peu près 2 ans, donc, si je ne me trompe pas, bientôt 3 ans, a été donc réouverte. Et il y a ce jeune pasteur, sous la responsabilité d'une équipe pastorale, qui nous a partagé le travail qu'ils accomplissent. Quelle énergie, quelle vitalité, quelle bénédiction. Tous les collègues qui étaient avec moi, de mon âge et plus âgés, c'est un jeune, une vingtaine d'années, on s'est regardé, on a dit, il faut qu'on soit avec la même énergie. Vous voyez ? J'ai reçu une belle leçon. Vous allez me dire, mais vous avez de l'énergie, pasteur. Oui, mais parfois, faut que je m'accroche. Mais là, mais quelle énergie, quelle vitalité, quelle vision. Oh, le garçon, bam ! Mais en même temps, l'église de Moulins profite et bénéficie de ce ministère. C'est une bénédiction, c'est un vent de bénédiction. Lui et l'équipe qui est avec lui, il y a quelques pasteurs un peu plus âgés qui apportent un petit peu l'équilibre, mais c'est formidable de voir cela. Et si vous allez voir les chrétiens de Moulins, de cette église qui a été réouverte, et vous leur dites, écoutez, frères et sœurs, on va vous retirer le pasteur. À mon avis, vous avez intérêt à courir vite. Hein. Parce qu'ils vont vous dire non, parce qu'ils se rendent compte de la bénédiction. Et là, ce contexte, c'est ça, Éphésiens 4, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à quoi ? À tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ici, c'est les vents qui ne sont pas souhaitables. Les vents de toutes sortes de doctrines mauvaises contre la parole de Dieu, qui ne sont pas bibliques, qui déstabilisent les enfants de Dieu. Vous avez un deuxième vent qui n'est pas souhaitable, d'autres vents qui ne sont pas souhaitables. Matthieu 7, verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison qui n'était pas sur le bon fondement, qui n'était pas sur le roc, qui nous parle de la parole de Dieu, qui nous parle de la personne de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vent a soufflé, et comme cette maison, c'est notre vie. C'est l'image, hein? Si elle n'est pas sur Jésus, si elle n'est pas sur la parole de Dieu, sur le fondement qu'est Christ lui-même, qui est le fondement qui subsiste éternellement, un vent mauvais, un vent de fausse doctrine, un vent violent, peut renverser la maison parce qu'on a mal bâti sa maison, parce qu'on a mal bâti sa vie, parce qu'on l'a bâti sur autre chose que sur la parole de Dieu. Les autres vents qui sont pas du tout souhaitables, c'est Jude, verset 12, qui nous le dit. Et il est écrit, par rapport au contexte, ce sont des faux docteurs, toujours pareil, ça revient souvent. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, de foie mort, déracinés. Ça, ce sont des vents néfastes qui amènent des gens dangereux, qui peuvent se lever au sein de l'Église, qui peuvent s'introduire dans l'Église, et qui ne veulent pas de Jésus, mais qui veulent faire qu'une seule chose, c'est de détruire la maison de Dieu. Et ils sont semblables à des nuées sans eau. Ça, c'est des vents qui ne sont pas souhaitables. Mais pour qu'il n'y ait pas de tel vent, il faut que le vent de l'esprit souffle fort. Et ces vents qui ne sont pas souhaitables seront écartés, repoussés, retenus. Là où il n'y a pas la plénitude de l'esprit, tous ces mauvais vents peuvent arriver. Et ils sont insidieux, ils sont néfastes, se manifestent, d'une manière qui peut paraître très spirituelle, mais qui ne le sont pas. Ce sont des nuées sans eau, des arbres d'automne sans fruits, de foie mort, déracinés. Et même, ils sont toujours en train de murmurer parce qu'ils sont, dit Jude, souillés intérieurement. Le souffle est invisible, impalpable, discret, souvent silencieux. Et pourtant, ça peut arriver. Sa présence fait toute la différence qu'il y a entre la vie et la mort. Et je vais arriver à la fin de mon message. Je prendrai deux exemples. L'exemple de la mort, suivi de la résurrection. suivi de la résurrection. Le premier exemple, c'est dans l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 17. Il est question du prophète Élie qui va obéir à Dieu en quittant le torrent de Kérit, parce que l'eau diminue, Dieu le permet, pour que son serviteur ne reste pas continuellement là avec sa tente, campant, c'est le Club Med. Non, il a autre chose à faire. Donc, l'eau diminue, Dieu le permet. Il a été gardé, protégé pendant 3 ans et 6 mois de la sécheresse. Et Dieu dit maintenant, tu files. Et il va se rendre à Sarepta. Et à Sarepta, il va y rencontrer une femme qui a décidé d'utiliser ce qui lui reste comme nourriture ou ingrédient, de faire ce qu'il y a à faire pour se nourrir elle et ses enfants, et ensuite ils n'ont qu'une seule chose en vue, c'est la mort. Mais Dieu soit béni pour Élie qui arrive, c'est un souffle de vie qui arrive. Et le miracle va se produire, parce que cette femme va s'occuper de ne plus regarder à ce peu qui lui reste, mais de regarder à ce que Dieu lui propose au travers du prophète, c'est-à-dire c'est un vent, c'est une plénitude, c'est l'action du Saint-Esprit pour lui apporter ce qui lui manque. Mais elle va s'occuper d'abord du prophète, elle va obéir, elle va manifester de la confiance et de la foi. Et à partir de ce moment-là, il va l'inviter à remplir les vases d'huile et l'huile ne va pas sécher. Il va y avoir une abondance et la bénédiction est là dans la maison. On pourrait dire, si je mets un point ici, on pourrait dire « Alléluia, merci Seigneur ». Mais si je regarde la suite, je suis étonné, bien que j'ai la réponse, de ce que juste derrière, la mort arrive. C'est très étonnant. Au départ, la mort était là, ils attendaient la mort, et Dieu envoie son serviteur, le prophète Élie, l'homme de Dieu, le souffle de vie vient, la plénitude de Dieu vient, la plénitude de la vie vient, la plénitude de l'Esprit se manifeste, gloire à Dieu, mais derrière, il y a la mort. Et le fils va mourir. Et en définitive, ce que je vais dire, c'est une logique incontournable, c'est que le fils de la veuve de Sarepta, il a cessé de respirer. Vous allez dire, oui, mais c'est normal, il est mort. Oui, mais quand je dis ça, je veux dire par là que le souffle est parti. La mort, il n'y a plus de souffle. Pourtant, le souffle est venu en apportant la solution, mais d'un seul coup, la mort frappe. J'ouvrirai une parenthèse en disant ceci, c'est pas parce que Dieu nous bénit aujourd'hui que demain, je ne serai pas appelé à passer par l'épreuve. Et je n'ai pas à trouver le pourquoi du comment, Dieu sait pourquoi. Et ici, l'histoire, elle nous montre, Dieu sait pourquoi, parce qu'il va y avoir derrière une plus grande bénédiction. Et quand ce garçon cesse de respirer, le prophète Élie fait la démarche qu'il doit faire, vous lirez le texte, il revient à la vie, le garçon, c'est-à-dire le souffle revient. Alléluia! Vous avez un deuxième exemple, et je vais appuyer quelques courtes minutes là-dessus, la fille de cet homme, chef de synagogue, qui se prénommait Jaïrus, Luc chapitre 8, il va aller vers Jésus, il rencontre Jésus, il dit à Jésus, ma fille, elle est malade, elle va mourir. Jésus dit, j'arrive, je viens. Bref, il est retardé par la femme à la perte de sang, qui va être guérie parce qu'elle manifeste la foi. Donc Jaïrus, qu'est-ce qu'il est en train de voir au travers de cette première guérison? Lui qui pensait que Jésus allait se dépêcher, mais Jésus est arrêté par cette femme. Dieu le permet, ça permet à Jaïrus de préparer son cœur. Il est en train de voir une femme qui est au bénéfice de la guérison miraculeuse de Dieu, parce que cette femme a mis la foi qui était dans son cœur en Jésus, pour être guéri. Donc il y a un souffle de vie, de plénitude, de l'action du Saint-Esprit dans son corps, dans son être. Alléluia. Et cette femme, elle est non seulement guérie, mais elle est sauvée. Lui voit ça. Seulement, cette étape a retardé l'arrivée de Jésus, mais tout est calculé par Dieu. Il n'est pas pris au dépourvu, tout était calculé. Et en étant en marche alors à ce moment-là vers la maison de Jaïrus, les serviteurs du chef de la synagogue de Jaïrus vont dire « N'importune plus le maître, ta fille, elle est morte. » En définitive, ta fille, le souffle de vie l'a quittée. Et je me mets à sa place. Mais quelque part, le Seigneur l'a préparé, je l'ai déjà dit. Il lui a montré qu'il était capable de redonner la vie là où il y a la mort, de donner la guérison là où il y a la maladie, de redonner l'espoir là où il y a la désespérance. La plénitude de l'Esprit apporte tout cela. Le souffle dont nous avons besoin, renouveau de souffle spirituel, c'est ça qu'il apporte. Et alors, Jésus va l'encourager et lui dit « Crois seulement. Et si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Crois. » Et Jésus va arriver dans cette maison. Il y a du bruit, il y a des pleureuses, on est en Orient, c'est comme cela. Jésus, leur dit, sortez, et Jésus ramène le souffle, ramène la vie en abondance. Alléluia. Luc 8,55, son âme, littéralement son souffle, est revenu en elle. Vous le savez comme moi, mes frères et sœurs, tout nous montre que le souffle est indispensable. Et ça sera ma conclusion. Je ne m'y étendrai pas. À chaque fois, il y a quelque chose à retirer de ces exemples. Un ballon gonflable, sans le souffle, à l'intérieur n'est qu'un objet flasque. Sans consistance ni tenue, il ne peut pas remplir sa fonction. Un chrétien sans la vie de l'Esprit, sans le souffle de Dieu, un homme, une femme sans la vie, la plénitude de l'Esprit, sans le souffle de Dieu, excusez du peu de reprendre les mots que j'ai cités, c'est quelqu'un de flasque. Sans consistance ni tenue, il manque quelque chose. Une voile sans souffle, pour la gonfler, va rester avachie. Elle ne va pas remplir ce pour quoi elle est faite. Un moulin, il a besoin du vent, oui ou non? Quand vous allez à Lautrec, vous avez au-dessus un moulin, il remplissait son office il y a quelques années de cela, mais tous les moulins, quand vous allez également aux Antilles, pour la canne à sucre, pour faire du rhum, bref, avec modération, vous aviez, maintenant c'est plus le cas, quand vous visitez, vous avez encore les moulins. Et la particularité d'un moulin, c'est que il y a une grande barre en bois qu'on prend pour tourner la tête, le toit du moulin, pour mettre les pales, ce que vous voulez. Bref. Les hélices, les ailes, tout ce que vous voulez. Bref, un moulin. Tournez le toit pour le mettre face au vent, parce que le vent tourne. Pour que le moulin accomplisse son travail. Mes frères et sœurs, il faut être toujours tourné dans la bonne direction. La direction du vent, de l'esprit. Parce qu'un moulin qui demeure inerte, immobile et sans usage, ça sert à rien. C'est pareil pour une éolienne. C'est pareil pour une chambre à air. C'est pareil pour une trompette. C'est l'immense, il va m'oublier. Ça va, on arrive à la fin du message. C'est dit, c'est vrai, ma trompette. Il a joué de la trompette, notre frère, Jean-David. Et comment t'as fait, Jean-David?
Bien entendu, il a soufflé. Mais il a soufflé fort. J'ai essayé, moi, de jouer de la trompette ou du saxo, deux instruments que j'aime beaucoup. J'ai essayé. Un jour, on m'a fait essayer, on m'a dit, vas-y, on change l'embout, bien sûr, paf. L'embout, c'est personnel. J'ai essayé, essoufflé. Tout a éclaté presque à l'intérieur. Mais j'ai pas sorti de son. J'ai dit, mais attends, elle fonctionne pas, ta trompette. Il me dit, c'est pas la trompette qui fonctionne pas. Trompette, va. Pardon. Parce que c'est moi. C'est pas la trompette, c'est toi qui sais pas la faire fonctionner. Mais j'ai dit, comment on fait? Il me dit, voilà. Alors il me montre. Et puis, je reprends la trompette, j'ai dit, oui, j'ai compris. Et je fais exactement comme il me montre et je souffle. Il y a rien qui sort. Parce qu'il y a une manière de souffler. C'est vrai, hein? Il y a une manière. Ça s'apprend, ça aussi. Voilà. Ça apprend. Une manière de souffler. Comme dans le saxophone. L'harmonica, pareil, c'est un instrument avant. Là, c'est un peu plus facile. Mais enfin, pour souffler dedans, je parle, hein, pas pour jouer, parce que c'est compliqué aussi. Bref, un instrument avant a besoin du souffle de la personne pour fonctionner. Alléluia. Mes frères et sœurs, juste rajouter ceci, Jean-Baptiste a été, nous dit Matthieu 11, a été un roseau agité par le vent. C'est vrai ou pas? C'est marqué, agité par le vent. Mais cet homme a été d'une consécration fidèle. Jusqu'à la mort, il a été agréable au Seigneur, ce dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Il a été le fruit de sa soumission à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Agité par le vent, il y avait peut-être des vents contraires, mais il y avait surtout le vent de l'Esprit qui balayait les vents contraires. Que Dieu nous donne, par rapport à ce deuxième symbole, le souffle, d'être renouvelé dans ce souffle spirituel, rempli. Amen. L'eau vive, on en avait parlé, le souffle. On ira plus loin sur la plénitude de l'esprit une prochaine fois avec un autre symbole. Dieu nous bénisse. Alléluia. Oh Jésus, merci. Bénis ta parole, Seigneur, dans les cœurs. Et continue ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen.